Une fois n'est pas coutume, je me dois de vous faire une confidence. Quand on est un média où l'inclusion est au cœur de la ligne éditoriale, j'ai rapidement compris que je ne pourrais pas échapper au sujet de l'hygiène féminine. La question qui me taraudait alors était la suivante. Suis-je bien la bonne personne pour parler de ce sujet ? En France, en 2023, près de 4 millions de Françaises sont impactées par la précarité menstruelle. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2021 et qui risque de s'aggraver à cause de l'inflation. Une femme dépense en moyenne 9 500 € au cours de sa vie en matière d'hygiène périodique. En tant qu'homme, un constat s'imposa alors à moi. Comment est-on venu pendant trop longtemps à abandonner 50% de l'humanité à son sort en l'enfermant dans un tabou ? J'en suis venu à la conclusion que réduire les inégalités, mais également l'impact sur l'environnement de ces produits, était bénéfique pour toutes et tous. Ainsi, quand j'ai appris que Chonéa Desgrémont, 29 ans, a lancé une gamme via sa marque homonyme de lingerie menstruelle en lin normand, ce qui est une première en Europe, et que de surcroît, cette dernière est également une amoureuse de sa région et de son patrimoine, je me devais de la rencontrer. Et je suis ravi vraiment que vous puissiez entendre cet entretien. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Normand. Aujourd'hui, je me trouve avec Chonéa Desgrémont. Bonjour.
Bonjour.
On est dans un bel endroit pour cet épisode. On est aux délices de la cathédrale, c'est Place de la Calande, à Rouen. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va rappeler que tu es la fondatrice et présidente de la marque donc qui porte ton nom, Chonéa. Et donc, c'est de cela
Exactement.
Qu'on va parler aujourd'hui. Cette marque, tu l'as lancée en octobre 2018, c'est ça ?
Absolument.
Alors, première question toute simple, j'ai envie de dire, enfin toute simple et peut-être un peu compliquée à la fois. T'as 29 ans, qu'est-ce qui t'a poussé, 25 ans, en gros, de dire, allez, je lance ma marque de culottes menstruelles made in France. Qu'est-ce qui t'a poussé à investir en fait là-dedans ? T'as toujours eu une âme d'entrepreneuse ?
Alors, tout remonte, pour faire court, 2013, l'année où je rentrais en école de commerce. Donc, je quittais un peu le nid familial et j'arrivais en école de commerce et j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui m'a proposé de faire un caddie de course. Donc, je suis tombée nez à nez avec un jeune couple avec un enfant en bas âge dans le rayon des serviettes hygiéniques, tampons, etc. Et le mari a jeté des couches à sa femme en disant « n'oublie pas tes couches ». Donc c'était
En parlant des serviettes hygiéniques, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà, donc c'était pas très glamour et très sympathique pour une jeune femme qui devient une maman, de rester femme et de se prendre un paquet de couches jetables dans la tête. Donc ça, en 2013, ça m'a fait une grosse douche froide. J'arrivais en école de commerce et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à demander à mon père pourquoi elle avait des couches jetables, comment ça se passait. Et il m'a expliqué que c'était après l'accouchement qu'il y avait des fuites urinaires, etc. Donc j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché, etc. Je me suis rendu compte qu'en 2013, il y avait pas grand chose qui existait, il y avait rien de lavable, tout était jetable et c'était soit des serviettes hygiéniques, soit des couches qui ressemblent aux couches de bébé en fait. Et je me suis dit c'est un peu dommage pour une femme de garder la sensualité avec des couches pour bébé. Donc j'ai commencé à réfléchir sur le projet en 2013 et j'ai bossé dessus pendant 4 ans.
Avant de le lancer.
Donc enfin même 5 ans d'ailleurs. Pendant toutes mes études d'école de commerce,
marché,
j'ai tout fait,
etc.
Je suis partie volontairement 1 an au Maroc, là où la place de la femme est assez controversée, justement, ouais. Pour comprendre les attentes des femmes, comprendre leur culture, leurs coutumes. Après, j'ai choisi de partir en Russie, là aussi où la place de la femme est assez controversée, mais c'est complètement l'inverse. Il y a à la place des fortes chaleurs, on a des températures qui sont très basses, donc
et c'est quoi l'impact ? C'est quoi, en fait, l'impact ? C'est aussi religieux, c'est culturel ? C'est quoi l'ensemble des impacts qui font ces différences-là et qui peuvent impacter différemment certaines femmes ?
En fait, c'est plein de choses. Ça va être autant, par exemple, religieux. Ça peut être religieux pour les femmes, par exemple, elles ne peuvent pas se baigner. De par la religion, elles ne peuvent pas mettre de tampons. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les femmes à pouvoir justement aller se baigner tranquillement. Il y a aussi le côté culturel, le côté qui dépend de chaque pays, notamment... Je le disais juste avant, en Russie, il fait très froid.
Ouais.
Donc, ça va abîmer la peau, en fait, quand il y a des frottements. À l'inverse, au Maghreb, il fait très chaud. Donc, c'est pas du tout agréable avec un jean, etc.
Non.
Donc, en fait, il y avait toutes ces choses-là qui ont fait que ça m'importait pas mal. Notamment aussi des personnes en situation de handicap, notamment les autistes, etc., qui ont besoin de changer. Je me suis dit, en fait, ils peuvent pas avoir que des couches. Donc, je voulais qu'ils aient de la jolie lingerie et qu'ils puissent la changer au fur et à mesure. Et pour moi, ça m'importait en fait que chaque personne puisse avoir la lingerie qui lui ressemble.
Mais tu as toujours eu un esprit en fait d'entrepreneuse, même si c'était pas forcément. Tu t'es toujours dit
sur ce sujet-là.
Qu'est-ce que tu voulais faire de base avant que ça te frappe comme ça? Que là, t'as ton déclic.
Je pense que au fond de moi, j'ai toujours eu une envie d'entreprendre.
Ouais.
Quand j'étais petite à l'école, je faisais des bracelets que je chinais. Enfin, je chinais plein de petites choses et je faisais des bracelets et je les échangeais dans la cour de récré. Ensuite, j'ai créé ma marque de bracelets quand j'étais toute petite.
Ça s'appelait comment?
Je me rappelle même pas comment ça s'appelait. Mais c'était une couleur et je crois que c'était marine, quelque chose comme ça. Je crois que c'était marine d'ailleurs. Ensuite, j'ai créé une marque de mocassins quand j'étais à l'étranger pendant mes études au Maroc. Pareil, voilà, j'ai fait des mocassins. En fait, j'ai toujours entrepris sans le vouloir, sans trop le savoir. Donc du coup,
par
là,
volonté de créer, de se satisfaire en fait de la création en général.
Pour plutôt voir un sourire s'afficher sur autrui. C'était plutôt ça qui m'inspirait beaucoup. Et j'ai toujours eu une nature, sans vouloir me jeter des fleurs, une nature qui est passionnée par autrui et qui se nourrit d'autrui. Et en fait, tout ce que je pouvais donner, je le donnais. Donc pour moi, c'était indispensable de créer.
J'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, c'est un peu.
j'avais envie de créer plein de choses et de l'offrir en fait. Donc typiquement, la marque de lingerie menstruelle,
ouais.
C'était un projet qui n'existait pas. Il n'y avait pas de culotte menstruelle en France en 2018. Donc en fait, ça me passionnait la broderie, ça me passionnait la lingerie, le corps des femmes. Et je me suis dit, banco, je le crée. Et j'avais pas vocation à ce que ça devienne une grosse marque avec plein de gens qui l'utilisaient.
En plus, on le rappelle, ça met 500 ans à se dégrader des serviettes hygiéniques standards avec le plastique qui est à l'intérieur. C'est ça, ça met 500 ans.
Ouais, c'est un tampon. Les tampons, en fait, mettent 500 ans à se dégrader à peu près. Ouais. Ce qui est énorme.
Ouais, pourtant, tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'en 2018, ce qui était réutilisable n'existait en fait. Peu, voire non, voire ouais. pas.
Il y avait des serviettes hygiéniques lavables, mais moi, je voulais vraiment pas qu'on garde le concept serviette hygiénique, mais je voulais vraiment que la femme puisse enfiler sa lingerie le matin, la retirer le soir
ouais.
et qu'elle pense à rien du tout. Peu importe son corps, peu importe ses différences, et qu'en fait, ses différences soient une force et qu'elle puisse être à l'aise dedans.
C'est ça, donc c'est en fait un effort en fait, d'inclusion envers toutes les femmes notamment.
Voilà, je voulais que toutes les femmes puissent. Pour moi, il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de.
Pas d'âge, pas de morphologie, en fait, pas de diktat.
Non, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. J'ai commencé les premières lingeries, la première gamme que j'ai lancée, c'était de 12 ans à 90 ans et plus, et du 12-14 ans au 34 jusqu'à la taille 48, en fait. Donc, pour moi, il fallait que toutes les femmes puissent porter ma lingerie.
D'accord, oui, donc effectivement, qu'on ait 12 ou 90 ans, on peut tout à fait porter du Chanel.
C'est ça, sachant qu'en plus, on fait de la lingerie classique, mais on fait aussi de la lingerie pour les périodes délicates, et donc du coup, moi, j'ai jamais utilisé le terme culotte de règles, mais bien période délicate, ce qui englobe les fuites urinaires, les incontinences, les menstruations, les pertes blanches. En fait, c'est vraiment pour toutes les femmes. Donc voilà, mon choix, c'était de faire de la lingerie pour toutes, parce que on ne choisit pas son corps, mais on choisit de vivre avec.
Il y a un tabou au niveau des règles, des menstruations en général, du corps féminin. Il y a un tabou à briser aussi là-dessus.
Voilà, sachant que si on remonte à 2013, alors ça c'est 2013, c'est très compliqué. 2018, un peu moins. 2018, on a quand même l'essor
de MeToo.
De plein de choses. Ouais, voilà. Il y a vraiment tout. Il y a sur les réseaux sociaux. Ouais, 2013, il n'y a rien du tout. Mais sur les réseaux sociaux, en 2018, on parle beaucoup de morphologie, on parle des règles, on parle de l'organe génital féminin, ce qui est très rare quand même d'en parler. Et donc voilà, moi je me rappelais de mon enfance dans les livres de SVT où il y avait un tout petit carré, une illustration avec l'organe génital masculin et féminin. Les règles, c'est un cycle de 28 jours. Hop, c'est bon, on passe au sujet d'après. Et donc voilà, c'était très très succinct.
Mais ça, c'est dû probablement à 2000 ans d'histoire en fait culturelle religieux dans le cadre du christianisme qui symbolisait en fait la femme comme un corps sale. Dans la Genèse notamment, il est dit que Adam est formé le premier et Ève ensuite. Dans la Genèse également, il est dit que c'est Ève qui succombe d'abord à la tentation du fruit défendu et elle en propose ensuite à Adam, entraînant l'expulsion du jardin d'Éden, la chute. Et pourtant, de manière paradoxale, c'est Dieu qui donne la capacité à la femme de faire probablement la chose la plus importante sur Terre, et la plus belle, c'est de donner la vie.
Voilà, bah donc c'est voilà, c'est assez paradoxal et c'était la raison pour laquelle ce sujet-là m'a touchée. Et je me suis dit finalement, j'avais envie à mon échelle à 25 ans de briser les tabous,
ouais.
d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'avais envie de faire comprendre aux hommes comme aux femmes qu'il n'y avait rien de sale, que si on avait du sang chaque mois, c'est parce que le corps a besoin de le rejeter. Tout comme quand on transpire, que ce soit des pieds, des aisselles, voilà, on est tous différents.
C'est ça.
Et puis, bah, on a tous été enfants à courir dans la cour de récré, à tomber, à s'écorcher le genou et à saigner. Il n'y avait rien de sale quand on se coupait le genou. Non. Donc, je crois qu'il n'y a rien de sale quand on a nos règles.
Mais justement, tu parles donc en 2013, en fait, tu as l'idée. Mais entre cette période, tu dis qu'il y a 4 ans de travail. Justement, j'aimerais un peu que tu nous dises, ça se chemine comment, en fait? On commence par quoi? On part d'une idée de quelque chose, d'une attitude qu'on a vue dans une grande surface à la construction d'une entreprise. Il se passe quoi, en fait?
Alors, ce qui a commencé, ça a été que j'étais dans mon école, on avait plein de matières différentes, comportement du consommateur, développement durable, etc. Et donc, du coup, par exemple, on avait des projets à créer de A à Z. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, avec des copains, il fallait qu'on soit 4 ou 5 à chaque fois sur des projets de groupe. On devait inventer un truc. Et donc, le premier projet de groupe en développement durable, j'ai dit à quelques camarades de classe, les gars, ça vous tente de travailler sur une culotte pour les périodes délicates, les futurs urinaires, etc. Donc, eux, ils se sont dit, bon, bah.
Il y avait que des filles dans ce groupe ou c'était?
Que des garçons.
Ah ouais, d'accord. Ça choque pas au départ?
Alors, moi, j'aime bien faire compliqué quand on veut faire simple. Et au final, c'était vachement plus simple, je pense, même avec des garçons, parce que j'en avais un qui avait 2 sœurs et sa maman, un qui était fils unique, donc lui, on lui parlait un peu chinois, mais finalement, il s'était vachement intéressé. Et donc, du coup, pour eux, il n'y avait rien de grave dans le sujet. Et donc, il y avait vachement plus de facilité à travailler dessus plutôt que d'avoir ce tabou, finalement, qui est tellement ancré dans la société que pour une femme, on ne va pas dire quand on a mal au ventre, parce qu'on a nos règles, parce que machin. Et là, les garçons, ils ont adoré travailler sur le projet. Donc, on a commencé comme ça. Après, je suis partie, du coup, l'année d'après, je suis partie au Maroc. Et donc là, j'ai continué à travailler. J'ai cherché les matières selon les chaleurs. J'essayais de trouver des matières qui étaient bien. J'ai pensé justement à faire un maillot de bain menstruel, donc pour que les femmes puissent aller se baigner de par la religion parce qu'elles pouvaient pas mettre de tampons. Mais aussi pour les petites filles qui ont 12 ans et qui ont leur première règle, c'est vachement plus sympa de pouvoir aller se baigner plutôt que rester sur la serviette pendant qu'il y a tous les cousins et cousines une fois dans l'année l'été à la plage. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, à chaque fois que j'avais un cours pendant mon école qui me permettait de travailler sur un projet qui était perso, les profs nous disaient, soit vous travaillez sur un projet qui existe, soit un projet perso que vous développez, etc.
Vous développez,
ouais. Et donc, moi, à chaque fois, je proposais à mes camarades ce projet-là. S'il y en avait qui voulaient bosser dessus, bah, c'était très chouette. Donc, j'essayais de ne pas le faire à tous les cours, parce que sinon, toutes les matières, on faisait que ça. Mais ça me permettait d'avoir plusieurs points de vue. J'ai eu la chance d'être dans les meilleurs de ma classe pour aller avec 45 étrangers. Donc, ça, c'était en 3e année. On avait 45 étrangers et que 10 Français. Donc en fait, j'avais des camarades de classe qui venaient de tous les horizons. Voilà, et j'avais un japonais, un chinois, un saoudien, un espagnol, un italien, une italienne. Enfin voilà, j'avais vraiment tout le monde. Et donc voilà, en fait, on a vachement parlé ensemble.
Et donc, tu avais ce que je trouve quelque chose qui est vraiment formidable, c'est-à-dire que de trouver, finalement, j'ai envie de dire, peu importe la nationalité, la culture, etc., quand on est une femme, bah, tout le monde a ses règles. C'est de manière, en fait, de pouvoir répondre à une problématique commune, mais avec des cultures différentes.
C'est ça. Du coup, je pense que c'est là où a été ma force pour développer ma marque sans contrainte. C'est que pendant cette 3e année-là d'école de commerce, en fait, j'avais l'impression, chaque semaine, de voyager, de découvrir un pays, puisque je parlais avec l'italienne, l'espagnol et le japonais. Et en fait, du coup, je leur posais des questions sur comment c'était chez eux. Et finalement, ça m'a vachement aidé, en fait, à pouvoir créer, réfléchir. Et donc, tout le projet, il a mûri comme ça au fil de ces 5 ans.
Ouais.
Et après, je suis partie en Russie. Donc, en Russie, j'ai fait la même chose. En Norvège, c'était la dernière année, j'ai fait la même chose aussi. Et donc, au bout de 5 ans, j'avais vraiment un projet qui était concret.
Ouais, qui
n'était plus un projet, ouais, mais qui était...
que tu n'avais plus qu'en fait à mettre en fait sur les rails et techniquement financer.
Donc finalement, quand tu me dis comment ça s'est passé, c'est plein de petits cheminements de... Voilà, j'ai commencé à faire ci, à faire des études de marché. Et puis après, j'ai fait un prototype. Et après le prototype, j'ai fait tester. Et puis au final, de fil en aiguille, je me suis dit, je me lance. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur et que ça allait devenir mon métier à 100%.
Faire quoi si tu n'avais pas fait ça?
Bah, j'ai refusé un CD qu'on m'avait proposé, mais en fait, je m'étais dit, je me lance là-dessus, je le lance, et je suis partie en Norvège. Et en fait, j'ai dû revenir plus tôt de mon voyage de Norvège parce que il fallait que je travaille sur ma boîte parce qu'il y avait trop de demandes et que j'étais toute seule et qu'en fait, il fallait que je gère tout. Donc, qu'est-ce que je me voyais faire? J'avais pas vraiment réfléchi. En fait, j'avais plein de choses possibles. J'adore les mariages. Je me disais, je pourrais faire wedding planner. Mais en même temps, j'adore la communication. En fait, il y a plein de sujets qui me passionnent. Et je suis un peu caméléon. Donc, j'arrive à être bien avec des personnes toutes différentes les unes des autres. J'aime bien trouver la particularité chez chaque personne. Donc, je m'étais pas trop pris la tête, en fait.
Et en 2018, donc, tu fais du financement participatif, je crois, c'est ça?
Je fais une campagne de crowdfunding sur Ulule. Je demande surtout, alors ça, c'est hyper important, je demande à tous mes amis, tous les amis des parents, etc., de ne surtout pas participer. Donc ça, quand je dis ça, tout le monde me dit « mais t'es folle ».
Ouais, mais je vois.
Mais en fait, non, je suis pas folle, parce que j'aurais pu vendre 500 culottes, mais je voulais pas vendre 500 culottes avec des personnes qui me faisaient plaisir. Je voulais vendre des culottes que à des personnes qui étaient intéressées et qui croyaient en mon projet, alors que je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai eu la chance, justement, de vendre 200 culottes à des personnes dans le sud de la France, dans le nord de la France, à droite, à gauche, à Marseille, à Bordeaux, en Italie, en Espagne.
Ce qui est en fait le but du commerce, c'est de rassembler au-delà de son cercle. Hein,
voilà, c'est ça. Sauf que c'est plus facile quand tu commences le commerce en utilisant tes relations. Et moi, je voulais surtout pas les utiliser parce que je me suis dit, je vais faire un carton, ça va être chouette. Et puis après, je vais vite déjanter. Là, je voulais partir de rien et vraiment construire mon petit chemin toute seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû revenir de Norvège, parce que je me suis rendu compte que
t'avais beaucoup de demandes.
Après mes 200 culottes vendues, ma boîte mail saturée, j'ai vendu 1000 culottes en 15 jours.
Ah ouais?
Donc là, je me suis dit, OK.
Et donc là, quand on est toute seule, qu'on a de telles commandes qui arrivent et on se dit quoi? On se dit, mon Dieu, je vais pas assumer? Ou on se dit,
alors,
la blague a pris? Ou c'est, enfin, bon.
En fait, je me suis dit, je savais pas comment réagir.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que j'étais en Norvège avec mon copain. Lui restait en Norvège. À la base, on était parti là-bas. Sauf que moi, je devais rentrer, finalement, parce que mon projet, il prenait beaucoup trop d'ampleur. Donc déjà, il y a ton projet perso de vie qui, déjante un peu. Parce que ton projet pro prend le dessus. Donc, je reviens en France, je reviens à Rouen. Enfin, je m'installe à Rouen quand je suis rouennaise
de base.
Voilà. Donc, je reviens dans mon petit nid rouennais. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont vachement soutenue dans ce projet. Et donc, je leur dis, écoutez, là, va falloir m'aider parce que déjà, j'appelle l'atelier. Je leur dis, il y a plus de 200 culottes, mais 1200 culottes à confectionner.
Ouais,
déjà,
ouais,
ça change la donne. Atelier me dit, mais là, on va avoir du délai, machin. Enfin, donc, il y a déjà toute cette complexité qui arrive. Mes parents, énormément épaulés. Mon grand frère aussi. Et du coup,
par exemple?
En fait, ils m'ont aidé sur plein de trucs. J'avais plein de mails. Donc, mes parents, ils m'aidaient à répondre aux mails. Ensuite, mon frère, il est super bon en logistique. Donc, il faisait tous les cartons et il envoyait les lingeries, etc. Enfin, en fait, c'est devenu vraiment familial. Mon père, il est réalisateur vidéo et photographe, donc il faisait les photos. Enfin, voilà, c'est vraiment devenu, sans le vouloir, familial.
Vraiment une entreprise familiale.
Et ça l'est resté. Et ça l'est resté, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Ça va faire 5 ans que la boîte existe. Et alors ça fluctue vachement. On a pu être jusqu'à 8, comme on peut être 2, 3, 4. Ça dépend de la conjoncture et des moments, en fait, selon ce qu'on a à faire. Là, dernièrement, j'avais 2 stagiaires avec moi. Parfois, j'en ai 3, 4, 5. Parfois, j'ai des salariés en CDD, CDI. En fait, ça dépend vraiment des temps forts de l'année, des besoins et de là où on veut aller en termes de projet. Mais c'est vrai que là, par exemple, en termes logistiques, j'ai jamais pris personne parce que c'est devenu, comme je le disais, un projet familial et mon frère adore ça. Donc, c'est pas du tout son taf, hein. Il fait un autre métier à côté, mais.
Il fait toujours un autre métier à côté.
À côté. Il est artisan en monument historique, donc, voilà. Et, à côté, par exemple, on a pris un rythme où, le matin, il fait les colis avec nous, quoi.
Mais justement, alors, parlons-en, parce que c'est ce que tu as dit au début. Il y a quand même un côté, une forte innovation. On en reviendra avec la gamme que tu as lancée en juin 2023, là, de culs de lin normand. On y reviendra. Mais il y a un côté, forcément, quand on fait de l'innovation, de quelque chose qui n'a pas été fait, en plus du Made in France, on peut se dire, on fait quand même un sacré saut dans l'inconnu. Est-ce que quand même ça va marcher? Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose, ça fonctionne plutôt bien. Pardon de parler peut-être un peu d'espèces sonnantes, des trébuchantes, mais ça marche bien, c'est rentable, ça se passe comment?
Alors, j'ai eu énormément de chance parce que du coup, cette campagne de crowdfunding de 2013 m'a complètement poussée, élevée avec brio. Et en fait, j'ai été rentable dès la première année, ce qui est très, 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 très rare pour une entreprise. Donc, je mesure complètement la chance que j'ai eue de pouvoir
être
rentable.
C'est un miracle, en fait.
C'est un miracle. Alors après, voilà, je suis partie de rien, mais j'avais des économies de côté. Donc, j'ai mis mes économies de côté. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère juste avant le lancement de ma marque. Elle m'avait aussi beaucoup aidée pour ce projet. Donc, pour moi, c'était un juste retour des choses de voir le projet éclore. Et donc, forcément, ça m'a mis un peu d'argent aussi de plus de côté. Donc, j'ai vraiment investi dedans en me disant, j'investis à deux. En fait, ma grand-mère est avec moi dans ce projet-là. Et en fait, je n'ai pas fait prêt, rien du tout. Et j'ai été rentable dès le début parce que ça a explosé. Alors après, on a connu des hauts et des bas pendant la conjoncture avec le Covid. On peut en parler mille ans, mais du coup, c'était compliqué parce que on n'avait plus de matières premières. Mais on est considéré comme première nécessité de par l'État. Donc, il fallait qu'on continue de vendre, mais sans avoir rien à vendre. Alors, je ne le cache pas, c'est hyper compliqué hein, quand vous vendez des culottes par centaines parce que les gens, ils sont chez eux et que du coup, ils se disent « Ah bah, je voulais tester la culotte, je ne l'ai jamais fait, mais comme on est confiné à la maison, je vais en acheter, comme ça, je vais tester. » Mais en fait, vous les vendez, mais vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez les livrer. Donc, il n'y a rien de pire pour un entrepreneur parce qu'en plus, moi, je déteste faire ça. Donc ça, c'était le moment le plus « down » entre guillemets de la société. Parce qu'on peut se dire, on faisait de l'argent. Oui, non, mais en fait, on faisait de l'argent sans savoir si on allait pouvoir le garder. Donc, c'était très, très compliqué. Mais aujourd'hui, la société est complètement rentable et j'ai énormément de chance. Ouais.
J'étais analyste dans une boîte qui s'appelle DeepScore, qui édite le site qui s'appelle MoralScore, en fait, qui fait du scoring pour les sociétés et le grand public sur des sociétés qui sont vertueuses ou non,
ouais,
en termes d'environnement, de fiscalité. On avait fait un scoring sur pas mal d'entreprises textiles. Il s'avérait que les entreprises, en fait, qui étaient les plus vertueuses étaient les moins rentables, voire pas rentables du tout, parce que le modèle économique, en fait.
Ben voilà. Je pense que la réelle chance qu'on ait eue, c'est surtout qu'en fait, on n'a jamais changé le produit depuis le début. Donc, comme j'ai bossé 5 ans sur le projet, je pense que la lingerie en elle-même était bien. Alors, c'est un peu, c'est un peu audacieux de dire ça, mais on va dire que...
Oui, mais c'est le feu d'entrepreneur,
voilà, faut avoir d'audace. On n'a jamais changé l'assemblage, la technologie depuis le début. Donc, on va dire que quand j'ai lancé la marque, dès le début, elle a plu à tout le monde et on n'a rien changé parce qu'en fait, j'avais étudié le monde entier avant de la lancer.
Ouais.
Et
c'est pour ça.
Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça a cartonné.
Et du coup, t'en exportes?
Ouais. On exporte partout dans le monde et on a des boutiques partenaires, par exemple au Canada, en Italie, en Suisse.
Ah, c'est bien ça.
Donc c'est super chouette parce que c'est un juste retour des choses aussi, puisque j'ai plein d'amis qui ont contribué à ce projet-là quand j'étais à l'école avec ces personnes rencontrées, les Chinois, les Japonais, etc. Donc,
Tout est fabriqué en France, c'est ça?
Alors tout est 100% français. On travaille avec 16 ateliers en France.
Ok.
Il y en a un dans l'écart, donc c'est Brousseau pour nos chaussettes. Donc, c'est celui qui est le plus excentré, on va dire. Il est dans le milieu de la France. Mais sinon, on a le nord de la France principalement pour les broderies, les dentelles, etc. On en a un aussi à Rouen, donc à Buchy, juste à côté. On en a un aussi directement au siège social à l'atelier à Ménil-Raoul. Enfin, voilà, on en a quand même plutôt vraiment totalement à proximité. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, je dessine toutes les esquisses des lingeries.
En fait. T'es dessinatrice, t'es entrepreneuse, t'es ingénieure aussi.
Bah, j'ai fait juste une école de commerce.
T'as des talents.
On va dire que j'ai eu la chance de baigner dans une enfance où mes parents m'ont beaucoup ouvert sur le monde culturel, sur le monde qui m'entoure.
Milieu
artistique. J'ai fait 15 ans de réaménager musique. J'ai fait du dessin, j'ai fait du sport, de la natation, de l'escrime, de l'athlé à haut niveau, en compète. Enfin voilà, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses enfant. Je suis née dans une sphère où il n'y avait pas de tablette et de télé à gogo à ce moment-là.
Ouais.
On va dire que je préférais jouer avec un bâton dehors dans la boue, m'amuser avec mes mains.
Les tablettes et la technologie, c'est un frein à la créativité ou c'est un entrain?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. Pour moi, ça peut autant être un frein qu'un entrain. Tout dépend comment on sait utiliser. Si c'est fait avec parcimonie et intelligemment, aujourd'hui, avec des tablettes, on peut faire plein de trucs. Notamment, moi, pour la broderie, je dessine vachement dessus. Après, je pense qu'il faut aussi laisser la créativité, parfois s'inspirer des choses qui nous entourent dans la vie réelle, hors tablette, avoir un crayon et un papier blanc, quoi.
Ouais. C'est pareil avec, enfin, notamment l'avènement de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup dans le podcast normand et ailleurs aussi. Ça peut être accompagner aussi la créativité ou y mettre un frein si on pense qu'on a toujours besoin de moins de personnes pour faire telle ou telle chose et notamment des tâches répétitives.
Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est quand même, voilà, je disais, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si c'est vraiment bien utilisé, ça peut complètement permettre l'essor, mais ça peut faire un frein, notamment chez les plus jeunes, peut-être.
Parce qu'on voit qu'en fait, tout ce qui est utilisé à mauvais escient peut produire des effets.
Voilà, mais c'est comme tout, hein. Un enfant qui joue trop longtemps dehors, dans le froid, va être malade. Donc, du coup, ça va être néfaste. Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est juste qu'il faut faire ça avec parcimonie, quoi.
Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. En juin 2023, tu as lancé la première gamme de culottes menstruelles en lin normand. Alors, pour petit rappel, je l'ai déjà fait, mais ça fait toujours plaisir. La Normandie produit 50% du lin mondial. Mais jusqu'à très récemment, il y a un essor de l'industrie du lin vers la France dernièrement, mais toute cette production allait essentiellement en fait vers la Chine ou d'autres pays. Donc on se lance encore dans une autre innovation, toujours avec la même finalement confiance, ou c'est une remise en question à chaque fois?
Pour le coup, toujours avec la même confiance sur ce produit-là, sur ce projet-là. Ça fait 5 ans que je bosse dessus et en tant que Normande et Rouennaise, ça me tenait à cœur de travailler lin. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Sauf que malheureusement, on n'avait pas de filature en France. On n'en avait plus. Elles avaient toutes été délocalisées en Pologne ou ailleurs. Le lin, la France, c'est 90% de l'exportation mondiale, ce qui est énorme. La Normandie, 50%. Enfin voilà, c'est immense. Et du coup, j'avais envie d'utiliser cette matière noble qui a toujours été utilisée chez nos grands-parents.
Voilà, et qui a grande qualité.
Et qui a de très grandes qualités, qui est une matière qui, où tout se transforme, rien ne se jette, contrairement à d'autres matières. J'utilisais le coton qui n'est pas le coton conventionnel, mais le coton biologique. Mais il a besoin de beaucoup d'eau pour être cultivé. Alors que là, le lin, en fait, c'est une irrigation qui est naturelle, parce que la Normandie, voilà, a assez d'alternance entre le soleil et la pluie pour faire pousser le lin. Donc pour moi, voilà, c'était en toute confiance. Toutefois, c'était un challenge très, très osé parce qu'il faut savoir que le lin, on a les idéaux du lin en se disant le lin, ça gratte, le lin, ça se froisse, le lin, et en plus, le lin, généralement, c'est pour des chemises, des pantalons, des nappes.
Oui, bon, oui.
Et c'est très rarement, quand on pense à de la lingerie pour du lin, ça veut dire directement avec les muqueuses, il fallait quelque chose qui soit hyper fluide, très doux, en contact avec la peau, qui n'ait pas de problème. Et donc, forcément, il fallait éduquer la société sur le lin, en expliquant que le lin, c'est thermorégulateur, mais c'est aussi hypoallergénique. Donc en fait, avec les muqueuses, c'est parfait, mais que ça pouvait être aussi quelque chose qui allait être hyper doux, et on pouvait retrouver la douceur du coton et la fluidité du coton avec du lin. Donc en fait, ça c'était super compliqué, parce qu'on a bossé quand même 5 ans pour trouver le fil le plus fin, qui pouvait non pas se tisser comme les chemises ou les nappes, mais qui pouvait se tricoter. Donc c'est une autre démarche. Et après de multiples tests avec mes ateliers qui se sont arrachés les cheveux et que je remercie 1000 fois, on a réussi à créer cette grosse innovation française, européenne et même mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lingerie menstruelle en lin qui existe ailleurs. Donc c'était vraiment une grosse innovation qui a été faite en pleine confiance. Parce que voilà, je savais que ça, c'était quelque chose qui était demandé par les clientes, d'avoir des matières encore plus respirantes. Et
justement, ça fonctionne bien?
Ça fonctionne super bien. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, ça sèche plus vite parce que le lin, du coup, sèche plus vite. Il y a encore moins d'irritation parce que c'est hypoallergénique. Et notamment, on parlait des personnes en situation de handicap tout à l'heure. Les personnes en situation de handicap, pour les futurinaires, c'est idéal parce qu'elles portent tous les jours les culottes, contrairement juste les menstruations qui sont une fois dans le mois. Là, ça permet vraiment de pouvoir les porter tous les jours sans avoir d'irritation sur les muqueuses. Ce qui est vraiment une grande, grande innovation dans la lingerie.
Voilà, c'est purement en fait accessible en fait à tous et pour le bien vraiment de tous.
C'est ça. Et puis c'est le seul produit qu'on a créé qui est 100% français, dans le sens où on faisait du coton made in France, mais le coton, on va pas se mentir, il pousse pas en France. Là, on travaille avec les agriculteurs normands, donc on travaille avec l'agriculteur Maxence Vasse, qui a ses champs qui sont derrière notre siège social. On travaille avec le filateur dans le nord de la France, qui est juste à côté, le brodeur dans le nord de la France, le tricoteur dans le nord de la France. Et en fait, tout se fait entre la Normandie et le nord de la France. Donc, grosso modo, la lingerie Chonéade, elle fait à peine grand maximum 200 km. qui est improbable. Enfin, c'est génial.
Alors, certains diraient, je vais prendre cette posture-là, mais certains diraient, c'est bien beau, tout ce made in France de A jusqu'à Z, etc. Mais c'est peut-être un peu cher. Qu'est-ce que tu répondrais?
Alors, je trouve que l'entrée de gamme est quand même totalement accessible parce que, par exemple, on a de la lingerie classique. La lingerie classique, elle est à 39 euros la culotte. Pour ne pas citer certaines marques, on rentre dans beaucoup de marques de lingerie qu'il y a notamment dans notre centre-ville rouennais. La lingerie à 39 euros, il y en a pas mal. Donc, sauf que celle-ci, elle n'a pas fait 50 fois le tour de la Terre. Elle s'est faite juste à côté. Je trouve ça plutôt accessible. Après, je reste quand même sur une marque qui est haut de gamme volontairement parce que voilà, on travaille des matières nobles, le lin, la dentelle de Calais, la broderie de chez Le Vau, c'est des matières qui sont vraiment faites entièrement à la main. Les broderies sont faites par nos couturières, donc ça prend du temps. Une lingerie classique, elle va être cousue en quelques jours à peine. Nous, on peut mettre jusqu'à 3 mois de confection pour une seule pièce. Donc celle-ci, cette lingerie qui prendra 3 mois de confection, elle pourra être à 60 euros. Ça peut paraître cher, je peux le comprendre pour certains, mais l'entrée de gamme est à 39, donc c'est accessible. Et en plus, maintenant, avec certaines mutuelles, on peut se faire rembourser 25 euros sur une lingerie. Donc finalement...
Je ne savais même pas.
Sur les lingeries menstruelles, maintenant, on peut se faire rembourser jusqu'à 25 euros en fait, sur la lingerie, donc ce qui est plutôt chouette. Parce que comme c'est considéré comme première nécessité...
C'est quelque chose, il faut avoir un contrat particulier ou ça se passe?
De plus en plus de mutuelles le font. Et là, il y a un gros débat qui est lancé maintenant. Mais l'idée, c'est prochainement de rendre les protections hygiéniques gratuites.
Ouais.
Ou rembourser du moins. Donc ça, c'est sympa. Et ça permettra d'avoir encore plus d'agilité en fait, pour chaque femme. Et chaque homme, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui achètent de la lingerie pour leurs filles, leurs femmes, leurs mamans. Donc voilà.
Je vais te faire une confidence avant de poser la question suivante. Quand je me suis mis à parler, enfin, ça fait un moment déjà, même avant de créer ce média, en fait, il y a un an, je parlais déjà, en fait, des problématiques liées à tout ce qui est la précarité menstruelle, parce que, en fait, ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais vu une pub, ou en tout cas une annonce aux États-Unis, qui disait, en gros, qu'une banque faisait de la publicité pour des crédits à faible taux pour que les femmes puissent se procurer des protections hygiéniques. J'ai trouvé ça, une tristesse, ça me donnait envie de vomir pour parler franchement. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on en arrive là? Et en fait, la question, c'est que 50% de l'humanité, c'est donc des hommes et 50% des femmes. Le problème étant, tu parlais de rendre les protections hygiéniques, en fait, gratuites. Le problème, c'est que justement, il faut aussi savoir parler de ces sujets-là, en fait, aux hommes. C'est pour ça que d'ailleurs, moi-même, et j'espère ne pas être le seul, je m'empare moi-même de ces sujets-là. Quel serait, par exemple, ton message? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, à des hommes qui ne s'en sentiraient pas concernés ou une vision biaisée ou autre chose?
Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un couple. Un couple avec un homme et une femme. La femme va avoir ses menstruations une fois par mois. Donc, un homme qui partage la vie d'une femme, une fois par mois, va le vivre, finalement. Qu'il le veuille ou non, la femme a ses règles. L'homme, s'il a la chance d'avoir une fille, sa fille aura également ses règles. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, se partage comme n'importe quel sujet, en fait, comme un homme qui va avoir des soucis au niveau de la prostate ou autre. C'est quelque chose qu'on partage. On fait le choix de le partager. Du coup, les règles, pour moi, c'est quelque chose qu'on partage tous les mois. Dans un couple, et encore plus quand on veut fonder une famille. Parce que un homme qui a envie d'avoir un enfant, c'est grâce à ces règles-là qu'il pourra donner la vie d'une quelconque manière. Donc, je trouve ça quand même assez important de prendre le sujet à cœur, dans le sens où non, c'est pas juste un caprice féminin d'aller vouloir acheter une paire de chaussures ou un sac à main, mais c'est plutôt quelque chose de naturel, en fait. C'est quelque chose de naturel, d'aussi naturel que d'aller faire pipi.
Ce qui fait qu'encore, même si on progresse, en fait, ces questions peuvent rester encore taboues, par exemple, et qu'on n'en arrive pas encore, ce qui se passe en Écosse, notamment, où les protections hygiéniques sont devenues gratuites. Et il y a peu de temps, je crois.
Il y a plein de facteurs qui font que, mais je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça arrive, alors c'est bête à dire, et peut-être à entendre de ma part, parce que forcément, je travaille là-dedans. Mais je suis convaincue que les choses vont changer au fur et à mesure.
Ouais.
En 2013, déjà, jamais on pensait qu'on aurait de la lingerie qu'on lave pour les règles. Aujourd'hui, en 2023, c'est le cas. Donc, il est possible qu'on arrive petit à petit, comme l'Écosse, à faire ça. De plus en plus de collèges et lycées offrent des lingeries pour les règles aux jeunes filles, etc. Donc, je pense qu'il y a la possibilité. Après, quels sont les freins? Il y en a plusieurs. Peut-être qu'on n'en parle pas assez dans les écoles, des cycles menstruels. Peut-être que c'est encore un peu trop tabou, mais au fur et à mesure, on lève le voile dessus et ça viendra.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui est assez formidable. Bon, ça sera pas diffusé à cette date-là, ça ne sera pas diffusé aujourd'hui, et j'en suis désolé, mais le jour où on enregistre, c'est le jour de la journée mondiale du droit à l'avortement. Je peux pas m'empêcher de dire cette phrase, de dire que si un homme était en situation de devoir avorter, il existerait des pilules abortives dans les distributeurs. En fait, c'est un peu cette phrase qui me revient là, et c'est quand même des combats en général qui sont assez longs. Et franchement, je me suis dit, enfin, te serais trouvé en face de moi en 2013 à m'annoncer que tu voulais faire ça, je t'aurais dit, mais t'es taré. Remarque, tu l'es peut-être un peu, mais dans le bon sens,
Alors, si ça peut te rassurer, en 2013, tout le monde m'a pris pour une grande folle. C'est justement là que j'ai trouvé ça drôle, en me disant, bah, écoutez, si je vous fais rire et si je suis folle, allez-y. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est plus de 500 folles et fous, étant donné que j'ai 500 concurrents aujourd'hui. Donc, il y a 500 autres tarés avec moi, dans le même bateau. Donc, finalement, je pense que...
La folie
nous emmène loin, oui, sur la mer.
On va parler de la deuxième partie, justement, dans un esprit de transition, en fait. Tu es quand même, on voit à travers ce que tu as dit, fortement attaché à ta région natale. C'est ce que tu as dit, en fait, tout le long. Tu es né à Rouen?
Je suis née à Rouen, exactement. J'ai grandi dans le centre-ville de Rouen, oui.
Qu'est-ce qui t'attache le plus, finalement, à cette région où tu t'es implanté, où tu as développé ton activité? Qu'est-ce qui fait que tu as toute cette attache-là à notre région?
Alors, peut-être que je suis pas hyper objective, ayant une maman historienne, mais il s'avère que je suis vraiment très attachée à cette ville parce qu'elle est très riche au niveau du patrimoine, entre les clochers, chez Jeanne d'Arc. En fait, on y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires dans cette ville. Et elle me transporte un peu. Donc forcément, j'y ai grandi, donc j'ai plein de souvenirs. Et j'ai eu envie de m'implanter dans cette ville, justement, parce que c'est celle qui, après avoir fait le tour du monde un petit peu, m'a le plus... En fait, je sais pas, c'était naturel de revenir ici. J'ai voulu partir pour voir ce qu'il y avait autour, parce qu'on m'a toujours dit de...
C'était ça la suite de ma question.
Pas rester... Mes parents m'ont toujours dit de pas regarder mon nombril et de toujours regarder ce qu'il y avait ailleurs. Donc, par exemple, quand j'étais petite et que je prenais un café, je regardais très souvent tout ce qu'il y avait autour de moi, et c'était comme dans un film au cinéma. Je regardais la petite fille qui faisait tomber sa glace, le monsieur qui toussait, qui allait aux toilettes, la personne qui se faisait gronder, le couple qui s'embrassait, celui qui était en plein divorce. Enfin, voilà, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi et je me nourrissais de ça. C'est exactement ce que j'ai fait en partant à l'étranger. Et naturellement, quand je suis revenue de l'étranger, je me suis installée très rapidement, un tout petit peu, chez papa et maman pour histoire de commencer à développer ma boîte, parce que forcément j'étais en Norvège et que c'était pas prévu que je revienne. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais aller chercher plus loin? Mon rêve à la base, c'était de vivre à l'étranger. Quand j'avais 18 ans, je voulais vivre à l'étranger. Et en fait, pas du tout. J'ai aucune envie d'aller vivre à l'étranger. Il y a tout ce qui...
Mais ça, on s'en aperçoit quand on a voyagé soi-même ou...
Je pense que... Alors, voyager littéralement ou non, on peut même voyager à travers des livres, de la musique, etc. Voilà, moi, j'ai eu la chance de...
Vous savez, les trucs, on tourne les pages.
Voilà. j'ai réussi à voyager. J'ai eu la chance de faire plein de voyages et de découvrir plein de trucs. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, OK, je veux vivre à Rouen parce que c'est exactement tout ce qui me ressemble.
Et donc, justement, parlons-en, tu es aussi châtelaine.
Fort probable. Il est vrai, mes parents ont investi dans une propriété il y a quelques années. Et le challenge, en fait, était... Donc, j'ai grandi dans le centre-ville de Rouen. Et en fait, mes parents sont très attachés au patrimoine, étant donné que je vous ai dit que ma mère était historienne. Mon père est réalisateur vidéo pour les musées départementaux. Donc, ça veut dire qu'il filme et il prend en photo toutes les œuvres. Donc, voilà, c'est très attaché au patrimoine culturel.
Amoureux de la pierre.
Exactement. Donc, ils sont tombés amoureux d'une certaine pierre, voilà, en campagne normande.
C'est le château du Grand Hamel.
Voilà, château du Grand Hamel à Ménil-Raoul. Et le challenge était le suivant, c'était qu'eux sont tombés amoureux et ils nous ont partagé ce projet-là et ce challenge. Mon grand frère étant artisan, et il habitait dans le Massif Central. Et il est tombé amoureux du lieu aussi, moi aussi. Et du coup, on s'est dit, OK, banco, on va partir dans une aventure un peu folle.
Une autre aventure familiale.
Une autre aventure familiale. Donc, ça veut dire qu'en gros, on s'est dit, OK, go, on va vivre ensemble pendant quelques années et restaurer toute la propriété ensemble.
On a une famille très soudée chez les Grémont, non? Pour faire plein de projets comme ça, familiaux, qui sont quand même ultra chronophages et qui rassemblent des vies entières.
Exactement. Bah, finalement, on est très, très soudés depuis qu'on est petits. C'est vrai que c'est la chance qu'on a. Et le projet est fou. Ça dépend comment on le voit, mais nous, on mesure la chance qu'on a d'avoir cette propriété et de pouvoir redonner vie à cette propriété qui était en train d'être délabrée. Et en même temps, c'est hyper jouissif au quotidien de retrouver des vieilles photos, d'essayer de redonner le goût à l'authenticité en se disant, bah là, ça, avant, c'était comme ça, ça, c'était comme ça, de travailler chaque pierre, d'essayer de redonner vraiment vie à la bâtisse. Voilà, c'est notre dada quotidien.
Comment, parce que là, il y a une fourmitude de questions qui me viennent à l'esprit, mais déjà, comment on finance ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement coûteux.
C'est quelque chose qui est très coûteux. Comme je le disais, comment on le finance? La chance qu'on a, c'est que mon frère est artisan. Donc forcément, ça aide énormément parce que mais du coup, on a la chance d'avoir un artisan sur place qui a la dextérité et le savoir-faire. Ma mère est historienne, donc elle connaît aussi toutes les techniques de comment faire du torchis, etc. Et on fait les trois quarts des travaux seuls. Donc, on apprend sur le tas. On est plus ou moins autodidacte sur les travaux.
Ouais.
Parce que, voilà, par exemple, on a remonté un mur en pierre, on ne savait pas faire, en fait. On a appris.
Et c'est quelque chose qu'on t'a appris aussi toi-même. Tu mets un peu la main dans la pâte là-dedans.
Depuis que je suis petite, les parents m'ont toujours appris ça. On a aussi une maison de vacances dans le Massif central. Et c'est une vieille grange que les parents avaient achetée quand on avait 12 ans. Et on a tout retapé. De A à Z, donc il y avait rien en fait, il restait que les murs, il y avait même plus de toiture, 300 mètres carrés de toiture qui étaient tombés, enfin voilà, il y avait plus rien du tout. Et donc petite, j'ai appris à rénover. Mon frère à 4 ans, il avait déjà une truelle et du mortier dans la main, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a appris.
Vous êtes des bâtisseurs.
Voilà, on a appris, on est amoureux de la pierre et donc du coup dès qu'on peut essayer de rénover plutôt que détruire, on essaye de rebâtir ce qui peut être rebâti.
Une fois, on pourra imaginer que ça se passe visiter ou à terme, c'est quoi le projet?
Alors, le but de ce lieu est vraiment que ça soit un lieu de partage.
Si tu parlais de partage tout à l'heure,
voilà,
justement.
C'est complètement un lieu de partage et d'amour, dans le sens où, par exemple, l'année dernière, on a ouvert le lieu, il y a des personnes qui ont voulu baptiser leur enfant. Donc, le baptême s'est déroulé dans ce lieu-là. On a eu un renouvellement de vœux de mariage, donc les noces de rubis, donc c'est quand même 35 ans de mariage. Là, cette année, on va avoir une journée viking, donc voilà. On a eu une journée aussi l'année dernière sur tous les possibles du lin. Donc là, on a invité plein d'acteurs normands qui créent le lin. Et donc, c'était une journée avec le portail qui est ouvert et en une entrée libre où les gens peuvent circuler et se voir ce qu'il fait dans la région. Et en fait, le but, c'est vraiment que ça soit un lieu de partage, donc on a des projets qui nous sont proposés et on y répond et on ouvre. Bah, typiquement, on a eu une journée avec une association qui s'appelle Accordiz et en fait, c'était d'avoir plein de choses différentes. Donc, on avait de la musique, on avait de la kinésiologie, de la sophrologie, des massages et en fait, tout était possible. Après, on a un spectacle de personnes en situation de handicap qui s'est déroulé dans le verger du château. Il y a plein de projets qui sont complètement différents et on a une motte qu'on appelle une motte druidique qui est sur la propriété qui elle aussi peut être visitée. Donc il y a plein de choses qui font que le lieu était un lieu de partage à l'époque et le souhait de la famille des Grémont c'est de refaire ce lieu de partage et que ça soit pas juste notre lieu à nous mais que ça devienne aussi un lieu qui est commun et qui fait plaisir. Par exemple, il y a des années, c'était la chasse aux œufs du village. Tous les enfants du village venaient chasser les œufs pour Pâques dans ce verger-là. Donc le but, c'est de
donc
pouvoir
c'est
redonner ça.
C'est la culture de bâtir et du partage.
Voilà.
Bon, en fait, c'est ça.
Qui se ressent autant dans ma marque que dans la famille et dans les projets.
Bah, sur ces mots, c'est comme ça qu'on va conclure et c'est des belles valeurs. Qu'on partage.
Exactement. Bah, merci beaucoup à toi.
Au podcast normand, il me reste juste une dernière question. Question un peu ouverte. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune entrepreneuse qui aimerait se lancer, peu importe dans quoi elle veut se lancer?
Alors, une simple phrase, mais qui a toute son importance. La vie ne tient qu'à un fil. Donc, il faut pas hésiter. Il faut y aller. Et au pire, si vous allez rater, ça sera pas un échec. Parce que quand on était petit, on a appris à marcher. On est tombé plein de fois et on s'est relevé. Donc, le but, c'est d'avancer, d'essayer d'y aller et ça sera une expérience incroyable, que ça fonctionne ou non.
Ça. Fil qu'il faut tisser.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et bien voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite dans le podcast Normand.